je vous présente, je vais sans doute vous présenter un discours qui est en écart par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. D'une part parce que je fais un autre métier, je suis dans un autre cadre, donc je vais apporter de l'autre, c'est-à-dire un autre point de vue. Ça tombe bien parce que j'ai une revue qui s'appelle L'Autre, qui est une revue justement qui est créée par des cliniciens qui travaillent avec, disons, des perspectives de essentiellement transculturelles, c'est-à-dire avec des patients qui viennent d'un petit peu partout et qui s'intéressent aux problématiques spécifiques que cela implique. Et nous cherchons aussi à être pluridisciplinaires. Donc dans la revue, nous avons des anthropologues, mais nous avons aussi des historiens. Nous avons interviewé Vidal Naquet, nous avons interviewé des gens de Benjamin Stora, qui paraîtra dans le prochain numéro, etc. Donc, il s'agit de parler d'un autre point de vue, qui est, mais comme je suis, je dirais, un bon élève, j'ai suivi ce qui m'avait été demandé, le sujet qui m'avait été demandé, de parler des revendications adolescente et de l'identité. J'ai repris un peu ce que il m'avait été envoyé comme question autour justement des assignations identitaires et de la place que la mémoire ou l'histoire pouvait avoir pour des adolescents. Alors, je travaille, disons, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de l'histoire dans la construction d'une personnalité adolescente? Comment se situer par rapport à ces revendications identitaires? Parfois avancé, on verra de quelle façon. En quoi l'histoire peut-elle apporter sa contribution dans ce cadre à la construction de l'identité? Mais en même temps, quel rapport il peut y avoir entre l'histoire et la mémoire? L'enjeu n'est-il pas aussi de dépasser les assignations identitaires et de construire une personnalité autonome? Alors mon propos, il s'appuie, comme je suis un psychologue clinicien, sur une clinique, c'est-à-dire sur des entretiens dans le cadre de la maison des adolescents qui se situe dans l'hôpital Avicenne à Bobigny, qui a été créé il y a 2 ans. Et il est évident que beaucoup des adolescents qui viennent sont des adolescents qui sont d'origine migrante. Ce n'est pas une exclusivité. Je dirais, il y a toutes sortes d'adolescents qui viennent nous voir. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle bon, je travaille dans l'équipe du professeur Maïrose Moreau, dans une perspective transculturelle, nous sommes souvent confrontés à des problématiques transculturelles. Je reviendrai un peu sur ce terme, qui est quand même un terme très particulier. Transculturel signifie traverser les cultures. Ce n'est pas de l'interculturel, mais c'est plutôt un niveau de réflexion plus large sur ce que c'est qu'une culture, sur ce que c'est qu'être dans une culture donnée. Alors si les adolescents que je vois sont des adolescents d'origine migrante, ça ne veut pas dire que cette coloration doit être perçue comme quelque chose de particulier, au sens où ces adolescents seraient à part. Ces adolescents sont, je tiens à le dire, des adolescents comme les autres. D'ailleurs, ils partagent avec tous les adolescents beaucoup de questions. Il suffit d'écouter les radios pour adolescents pour voir que, au fond, qu'ils s'appellent d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils partagent beaucoup de choses en commun, ils ont une culture en commun. Et donc, il n'y a pas de singularité. Mais, malgré tout, leur appartenance fait qu'ils posent ils mettent en évidence des questions qui sont implicites ou qui étaient implicites traditionnellement dans la clinique de l'adolescent. C'est-à-dire que, et je reprendrai là-dessus une expression qui est utilisée dans un très beau texte d'un sociologue qui s'appelait Schütz, qui a fait un très joli texte qui s'appelle « L'étranger », qui a été republié il y a 1 ou 2 ans, je crois, chez Arléa, qui dit que ce qui caractérise l'étranger, c'est qu'il remet en question les évidences. C'est-à-dire qu'il y a, quand on n'est pas étranger, on a une sorte de rapport naturel au monde. Alors que quand on est étranger, tout devient problématique, discutable, hein, la façon de manger, la façon d'être, de s'habiller, de dire bonjour, etc. Il y a beaucoup de choses, hein, qui deviennent discutables. Et donc, ça permet de comprendre un petit peu mieux, d'avoir un regard un peu critique là-dessus. Je tiens à dire que être discutable, ça veut dire aussi que être étranger, c'est apporter de la créativité. Hein. On parle souvent de la condition des migrants ou des enfants de migrants sur le mode, disons, du déficit. Alors qu'en fait, cette position peut être l'objet d'une grande créativité. C'est une autre question sur laquelle je n'aurai pas le temps de parler, mais malgré tout, c'est très important. Alors, je vais partir de quelques exemples, justement. Quand on est clinicien, bon, les historiens, ils travaillent sur des archives. On travaille sur des histoires singulières. Bien sûr, on a toute une expérience et toute une capacité à comparer, à voir des éléments communs. Mais il y a toujours cette particularité de chaque histoire. Alors, je vais prendre quatre histoires. Parce que, comme je disais, en bon élève, je me suis dit, je vais répondre à la question. Et je me suis dit, dans quelles circonstances j'ai pu me trouver face à ces questions d'identité et d'histoire ? Alors, je partirai d'abord d'une anecdote qui m'a été racontée par un professeur. Donc, c'est un peu en dehors de cela. Il m'explique qu'un jour, dans un cours, il était en train de parler, je ne sais plus de quoi d'ailleurs, et puis il voit un petit garçon que j'appellerais Rachid, qui n'écoutait pas. Et il regarde, il paraît en train de rêver. Et il s'approche de lui et constate que, au lieu d'écouter le cours, il est plongé dans les pages du manuel, à une autre page, mais qui est consacré à la civilisation musulmane au Moyen-Âge. Et à ce moment-là, il a tout de suite compris la signification un petit peu de son rêve. C'est qu'il avait remarqué que Rachid s'était laissé pousser la barbe et qu'il avait des préoccupations religieuses. Donc il était vraiment au cœur d'une question un peu d'identité. Hein. Mais c'était dans le cours d'histoire quand même, c'était dans le manuel d'histoire, ce qui était quand même quelque chose d'encourageant. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui concerne un adolescent que j'ai suivi en psychothérapie, que j'appellerai Omar. Il vient un jour, il me dit « je suis fatigué ». Bon, alors, il m'explique qu'il fait le ramadan. Omar a 15 ans, il en paraît beaucoup moins. Il vit seul avec sa mère et sa petite sœur. Il n'a par ailleurs aucune autre pratique religieuse, que je sache, ni d'ailleurs de préoccupation de cet ordre. Je lui demande alors de m'expliquer ce que représente pour lui cette pratique. Il me dit, c'est à cause du prophète. Je lui dis, ah bon, et qu'est-ce que sais-tu du prophète ? Et il me répond, je l'ai appris à l'école. C'est lui qui, à la Mecque, a renversé les idoles des juifs et des chrétiens. Donc le seul rapport qu'il pouvait avoir, au fond, d'une certaine manière, avec cette histoire, hein, cette histoire religieuse, c'était par l'école qu'il avait eue, mais vous voyez bien, sous quelle forme, relativement déformée, hein, qui faisait en même temps écho à bien d'autres choses. Troisième exemple, je ne vais pas les multiplier, mais je vais les prendre quand même dans des secteurs assez différents. Dans un article d'ailleurs qu'on avait publié dans la revue L'Autre avec une collègue, on avait parlé d'adolescents au moment de la guerre de Yougoslavie, d'origine serbe, qui présentaient des difficultés et des comportements. Alors c'est intéressant parce que l'idée de faire cet article, elle nous est venue, je dirais tout d'un coup, on a dit, mais tiens, il y a des tas d'adolescents serbes. Avant, on n'en voyait pas, et d'ailleurs, après, on n'en verra plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment particulièrement aigu où une question identitaire s'est posée. Ces adolescents qui étaient nés en France, de parents très bien insérés socialement, professionnellement, il est apparu assez rapidement qu'ils réagissaient de manière très vive aux événements de Yougoslavie retransmis à la télévision, soit directement, soit en fonction des réactions de leurs propres parents ou des propos de leurs camarades. Être serbe, dans ce contexte, devenait un point essentiel de leur être, alors même que les Serbes étaient désignés comme responsables de massacres. Notons bien sûr que ces sentiments ne concernaient pas que les adolescents, et les parents en parlaient aussi, bien évidemment. Quatrième exemple, assez différent, j'aurais pu parler d'autres situations concernant des enfants juifs, etc. Mais je vais prendre un autre exemple et vous allez voir de quelle façon. Il s'agit d'une jeune fille que j'appellerai Jennifer, de 14 ans, qui est venue à la maison des adolescents il y a quelques mois, dans un moment de crise grave. Elle dit « C'est Hiroshima dans ma tête ». Toute de noir vêtue, elle se dit gothique, arbore piercing et tatouage, et parle de son désir suicidaire, mentionnant aussi qu'elle se scarifie les bras. Elle va même, dit-elle, jusqu'à recueillir le sang qui coule de ses veines au moment de la scarification dans un verre. Elle dit ne pas aimer son corps car elle a beaucoup grossi. Elle dit j'aime la musique, celle de Nirvana, le hard, le métal. Et elle ajoute avant j'étais racaille, maintenant je suis métalleuse. Elle arbore bien sûr les fameuses Doc Martens, ces fameuses grosses chaussures cloutées qu'affectionnent certains adolescents de ce style. Deux détails vont toutefois attirer mon attention au cours d'un entretien ultérieur. Elle raconte que quand elle se scarifie, elle se fait des croix gammées. Or, nous l'apprenons un petit peu plus tard, Jennifer est, par sa mère, bien sûr, d'origine juive. Elle refuse vivement cette identité, disant que ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, depuis la mort il y a quelque temps d'un petit ami de 24 ans dans un accident de voiture, elle affirme qu'elle a arrêté de croire en Dieu et commencé à le détester. Donc voilà un peu quelques exemples qui vont me permettre d'amorcer un peu une réflexion sur l'adolescence et sur la place que la mémoire ou l'histoire peuvent avoir dans ce processus d'identité. Bon, disons que, je vais essayer de faire bref, l'adolescence est un processus. C'est-à-dire que c'est un épisode plus ou moins long de la vie marqué par un certain nombre de caractéristiques. Le changement, la séparation, la réorganisation psychique, l'accession à une forme d'individualité et de subjectivité, et précisément la construction d'une identité propre. L'identité, en un sens, est la grande affaire de l'adolescence. D'ailleurs, dans un livre, un classique de la psychologie de Erikson, qui s'appelle « Adolescence et crise », il parle de la quête de l'identité. C'est un très beau livre, un classique, qui bien évidemment a été discuté, mais je pense que la caractéristique d'un grand livre, c'est de faire discuter, c'est de faire penser les autres, fût-ce justement en contradiction. L'identité, c'est une grande affaire pour l'adolescence, mais il faut noter que, du point de vue, je dirais, psychologique, psychanalytique, pour dire les choses, le terme d'identité n'est pas un terme très utilisé. Freud, par exemple, n'utilise pas le terme d'identité pour ainsi dire. C'est plutôt un terme, vous ne trouverez pas dans les dictionnaires de psychanalyse le terme identité. On parle d'identification. C'est un processus, c'est quelque chose qui se construit. L'adolescence est donc un mouvement, une dynamique qui s'accompagne bien sûr d'une certaine violence, qui ne doit pas faire illusion car c'est en réalité la traduction d'un sentiment de grande fragilité. Ça c'est quand même constatation quand je reçois des adolescents qui me racontent qu'ils ont été exclus de l'école, que ça va pas du tout. Bon, il n'y a pas que des enfants exclus de l'école qui viennent nous voir, il y a aussi d'excellents élèves qui sont très très malades, il faut le savoir. C'est-à-dire que pour qui la réussite scolaire, c'est une forme de réussite, mais derrière, il y a beaucoup de fragilité. Et souvent, je me dis, oh là là, avec les professeurs, tout ça, les écoles qui nous envoient ces élèves, ça doit être terrible de les avoir en classe. Et je vois en face de moi des petites jeunes filles, des garçons plus ou moins jeunes qui sont tendres. Je dirais, on sent énormément de fragilité. Je pense d'ailleurs à une jeune fille que j'ai vue la semaine dernière. Je pourrais pas dire son nom parce que son nom est tellement caractéristique que ça serait. Mais s'identifiant à un héros d'un film, elle avait reçu le prénom, comme prénom, le nom d'un héros de film. Et c'était exactement ça qui exprimait la violence. Elle se faisait rejeter de l'école. Mais en même temps, c'était une petite jeune fille, je dirais sympathique. Très tendre, très intelligent, très mûr, donc qui avait connu bien sûr une histoire un peu difficile. Donc, la violence, elle existe sur le mode parfois de la revendication. Les parents et les adultes ne supportent pas souvent ces revendications et cette revendication est en fait la recherche d'assises narcissiques solides. Bon, être adolescent, c'est ne plus se reconnaître. Hein, c'est ne plus se reconnaître dans son corps, dans le regard, l'apparence des adultes les plus proches, ses parents. Sentiment d'autant plus difficile à supporter que l'adolescent est pris dans un désir ambivalent de séparation. Pour se séparer, c'est ça l'enjeu de l'adolescence, il faut se sentir suffisamment structuré intérieurement, ce qui est évidemment très problématique. L'adolescent doit donc procéder à l'édification d'un idéal du moi, s'appuyant sur l'extérieur, en intégrant en lui-même des imagos, c'est-à-dire des images intériorisées sur lesquelles il va pouvoir organiser cette construction. Ces imagos renvoient d'abord aux parents, bien sûr, lorsqu'il était petit, mais à l'adolescence, précisément, le sujet va en chercher d'autres adultes, des grands-parents, des éducateurs, des professeurs, des aînés, des figures idéalisées. Alors c'est dans cette époque, je crois, d'adolescente que l'école, et peut-être singulièrement, mais non exclusivement, le cours d'histoire, peut déjà intervenir. En effet, en allant au cours d'histoire, on apprend, mais aussi on se forme humainement. En un sens, l'histoire n'est pas seulement un savoir, c'est une métaphore. C'est d'ailleurs pourquoi, bien sûr, la relation au professeur est toujours très intense. Vous pensez que, bien souvent, la violence, lorsqu'elle s'exerce contre les institutions scolaires, c'est une déception. C'est le produit d'une déception. La relation est toujours très intense. L'école est un instrument d'élaboration cognitive, mais elle est aussi chargée d'une haute valence symbolique. Elle est lieu de savoir et de vie. C'est un fait, c'est pas une question de texte, dire si c'est un lieu de vie ou non. C'est un lieu de vie, on vit. Les professeurs n'ont pas devant eux de simples cerveaux frontaux, siège de la pensée, mais des cerveaux complets, heureusement, car un cerveau frontal tout seul, évidemment, ça ne marche pas. Donc, à l'école, on rencontre des pairs aussi, P-A-I-R-S, mais aussi des adultes, des plus vieux, des plus âgés, des aînés, des modèles, des instances d'étayage du moi, et des références culturelles, esthétiques, des processus de pensée. Dans ce cadre, l'histoire est d'abord une histoire, un récit, une forme de récit qui, à travers l'histoire des hommes, raconte l'histoire de l'homme, c'est-à-dire de ce sujet qui est là. Ainsi se met en place, à côté d'autres instances, la famille ou la télé, le club de sport, etc., ce que l'on peut appeler un contenant culturel. Alors je vais être assez bref sur cette notion, et la notion de contenant culturel, très important. En gros, on peut dire que le sujet, il est du contenu et du contenant. Il y a la peau, elle contient le corps, mais il y a aussi d'autres formes de peau, des peaux culturelles notamment, qui vont contenir. C'est-à-dire qu'un contenant, le contenant psychique, c'est un contenant de pensée. C'est-à-dire, c'est un instrument qui va permettre de penser les pensées. Il y a une dimension cognitive, mais aussi des mécanismes inconscients, des modes d'approche du réel, etc. Ils viennent de l'entourage, des parents ou des adultes qui nous les attribuent ou qui nous les transmettent explicitement. Donc ces contenants de pensée sont une sorte d'enveloppe psychique qui articule monde interne et monde externe, et il est très important qu'il y ait une sorte de cohérence entre ces deux. Vous savez qu'un adolescent, c'est quelqu'un d'écorché, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réagit comme si, quand on le touche, on lui dit quelque chose, immédiatement il réagit de manière extrêmement brutale parce qu'il est écorché, sa peau, y compris l'acné, c'est la peau qui travaille, qui est en quelque sorte en déconstruction. Et c'est pour ça que construire une sorte d'identité dans l'adolescence, sous une forme ou une autre, mais notamment à partir des marques sur la peau, c'est extrêmement important. Dans le cas de Jennifer, elle vient avec ses vêtements noirs, ses tatouages, son maquillage, etc. Et il s'agit de marquer sur la peau, d'inscrire quelque chose, et par exemple son opposition à ses parents avec ses croix gammées, et ses vêtements noirs qui naturellement insupportent ses parents. Donc la culture, c'est, on peut dire, précisément ce que l'on peut savoir de son histoire, mais qui est brandi et exhibé. Il faut alors puiser, fût-ce négativement, dans un patrimoine des manières d'être. On peut être alors anard, gothique, grunge, babacool, catho, musulman, et même au pire, facho ou islamiste. L'important, c'est d'être quelque chose et surtout d'être dans une situation d'homologie entre la face interne et la face externe de cette peau, le psychisme et la culture qui sont toujours en rapport. Alors, je vois que le temps passe, il me reste 10 minutes, d'après ce que j'ai compris, donc je vais revenir un petit peu à la question de l'histoire et de sa fonction. Bon, disons que la culture, c'est du contenant, et cette culture, elle est très fragilisée pour tout le monde aujourd'hui. Hein ? Ce sont les transformations du monde, la modernité, l'érosion des références culturelles, religieuses ou morales. Cette fragilisation, elle peut affecter particulièrement les enfants migrants, hein, dont les référents, puisque les références culturelles des parents peuvent paraître inopérantes dans un nouveau contexte, soit parce que les cultures sont éloignées, soit parce que la culture scolaire est inconnue des parents. Mais il y a aussi l'opposition entre la culture adolescente et la culture des adultes. Il est clair qu'il y a souvent une difficulté hein, dans le dialogue à ce niveau-là. Alors, notons sur ce point que ce qui rassemble justement tous les parents, qu'ils soient d'origine migrante ou non, c'est qu'ils sont tous issus d'un grand voyage. Ça, c'est Margaret Mead qui disait ça. Quelque part, elle dit, je cite de mémoire, elle dit, au fond, tout le monde ici, c'est comme quelqu'un qui avait fait un grand voyage, hein, qui vient de très loin. Hein, c'est-à-dire que toute l'histoire de la modernité, c'est un voyage. On est passé d'un point à un autre. Donc, face à cette fragilisation, le recours à la mémoire et à l'histoire peut être une réponse positivement ou négativement. Alors, bon, la question de l'identité, elle est très importante pour l'adolescent, mais vous savez que ce qui caractérise un adolescent, c'est à la fois son originalité et son conformisme. On pourrait dire que ce qui caractérise un adolescent, c'est qu'il est conformiste dans son originalité. Pour se séparer, il faut s'appuyer sur les pairs, P-A-I-R-S, ou alors sur des figures idéalisées. C'est pas facile et appelle souvent une certaine violence qui prend la forme, nous l'avons vu, de la revendication identitaire. L'adolescent est entre la filiation et la filiation. C'est-à-dire, il faut à la fois s'accrocher à ce qui est venu avant et en même temps, il faut construire d'autres liens. Il y a des loyautés invisibles. Ça, c'est le domaine, on pourrait dire, de la mémoire. Les loyautés qui vous attachent hein, et qui peuvent être effectivement, des instruments de l'affirmation adolescente. On peut se référer, par exemple, à ces filiations, mais c'est toujours avec une certaine culpabilité. Hein. Par exemple, la culpabilité chez les enfants de survivants est très importante. Hein, chez les enfants, les survivants d'une catastrophe, d'un massacre ou d'un génocide. Et donc la recherche ou la revendication mémorielle deviennent un enjeu majeur sur plusieurs générations, comme on le voit avec la Shoah. Mais elle existe aussi plus couramment comme un moyen de prise de distance. Le mouvement d'affiliation consiste par exemple en une affiliation mythique avec des grands-parents. Hein, les grands-parents sont toujours des interlocuteurs très importants pour les adolescents. Mais ça peut être des grands-parents, je dirais, idéalisés, voire des grands-parents virtuels. Hein. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, le fait de s'accrocher au combat des grands-parents, même si ce combat, on n'en sait rien. Hein, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ou bien la religion hein, des grands-parents, comme on le voit. C'est-à-dire une religion qui est en opposition avec celle des parents. Il faut pouvoir s'accrocher sur les grands-parents pour s'opposer aux parents. Ouais, et souvent, les jeunes filles que je vois nombreuses à Bobigny, d'ailleurs, elles ne viennent pas tellement dans nos consultations, mais elles sont là. Elles sont autour, elles sont dans le métro, celles qui portent des voiles sur la tête. Eh bien, souvent, elles s'identifient à une religion. J'ai eu l'occasion de discuter avec elles. Pour s'opposer aux parents, hein, qui en disant mais vous avez été des mauvais musulmans, puis vous voyez vous n'aviez pas de faire fierté, vous avez rasé les murs, hein, vous n'avez pas donc c'est là qu'il y a évidemment un danger dans les affiliations religieuses qui peuvent être récupérées parce qu'on est là dans un passé mythique idéalisé, le temps du prophète par exemple, complètement désinséré d'un environnement culturel. Alors ça, c'est un point. Autre point, c'est la question de la honte et de la perte. Hein, c'est-à-dire que, au fond, La honte, elle est très présente. Il n'y a pas besoin de dire qu'il faut faire honte aux jeunes. Les jeunes, ils ont honte. Ils ont très souvent honte, pour toutes sortes de raisons. Mais ils voient souvent que la situation subordonnée hein, de leurs parents, ou discriminée, et non pas leur parcours migratoire. Alors, la mémoire est peut-être une sorte d'identité réparatrice de ce point de vue-là, qui cautérise la honte, en même temps d'ailleurs qu'elle atténue hein, la culpabilité de se séparer. Vous savez qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est que les parents d'enfants migrants disent « tu vas réussir, pour réussir tu vas devenir un Français, mais quand tu vas être Français tu vas plus être comme moi ». Donc il y a un petit problème, hein, une culpabilité qui est un peu difficile. Mais je crois que très important de voir le côté très pervers de la victimisation. Parce que quand on est victime, c'est qu'on est vaincu. Or, ces enfants de migrants sont des enfants de parents vainqueurs, conquérants, des aventuriers, des gens qui sont partis de chez eux, qui ont fait un parcours. Et c'est très important de le souligner. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile hein, par rapport à ça. L'immigré, évidemment, est hanté par la perte. Hein. Il va perdre quelque chose. Il ne le sait pas au départ. L'immigré, il part, il va s'installer, il pense qu'il va revenir. Puis finalement, il ne va pas revenir. Pourquoi il ne va pas revenir? Ou alors, il va revenir dans une position tellement différente. Hein. Sayad, qui parlait tout à l'heure, disait, c'est la double absence. On est immigré-immigré. Hein. On est finalement un immigré dans le pays d'accueil et puis on est un immigré quand on revient. Ah, mais oui, c'est le français qui revient. Donc, c'est pas tout à fait facile à vivre. Et donc, là aussi, hein, la mémoire peut jouer un rôle dans la question de la dette identitaire par rapport aux parents ou aux grands-parents. Et c'est là que je crois que s'insère la question du militantisme identitaire. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le militantisme identitaire, que vous citiez tout à l'heure, il est souvent le fait de gens qui ont bien réussi à l'école. Hein, c'est-à-dire des gens qui peuvent venir de milieux qui ont fait de longues études. Tout à coup, hein, il faut revenir à quelque chose parce que je suis allé trop loin. Et est-ce que c'est ça qu'on me demandait? En tout cas, il y a quelque chose hein, à corriger. Alors, je terminerai dans une conclusion rapide en parlant du rapport entre la mémoire et l'histoire. Je crois que la mémoire, il faut articuler la mémoire et l'histoire. Et dans le jeu adolescent, je vais résumer un peu ma pensée. Dans le jeu adolescent, la mémoire, elle est un peu du côté de ce qui attache, de ce qui lie. Alors cette liaison, elle peut être plus ou moins, je dirais, plus ou moins libératrice. Hein, c'est-à-dire que quand même, c'est quelque chose qui enchaîne aux générations précédentes. La mémoire est quelque chose qui vous retient à la maison, qui vous retient, je dirais, à la fois aux côtés de vos parents et de vos grands-parents, même si c'est des grands-parents très éloignés, très idéalisés ou virtuels. Hein. Donc, or, ça répond finalement à cette idée chez l'adolescent, oui, il faut que je me sépare, mais c'est pas facile. Hein. Vous savez que la violence adolescente, c'est ça, c'est... Plus il s'engueule avec ses parents, plus en fait ça veut dire « je voudrais bien partir, mais j'y arrive pas ». C'est un peu ça, parce que est-ce que je suis assez sûr de moi pour partir hein? Il y a aussi des considérations économiques, sociales, de l'indépendance dont ils peuvent disposer. C'est toujours un peu cette idée. Là, le choc des générations, hein, il vient un peu de cette question. Comment pouvoir devenir un adulte, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, tout en restant soi-même lié à ses parents. En fait, c'est des phases. Souvent, l'adolescent il a besoin de partir, et après il revient. Hein, il revient un petit peu plus tard. Bon, à côté de cela, et j'en terminerai puisque je crois que mon temps est écoulé, il y a l'histoire. Je crois que les profs d'histoire ont un rôle très important d'ouverture. Hein, d'ouverture. Mais il faut être, je dirais, en mesure de reconnaître hein, cette part de mémoire que chaque adolescent requiert. Hein. Je pense que, je dis, parce que je suis prof d'histoire, faut comprendre ces adolescents qui viennent d'ailleurs, il faut comprendre les cultures d'où ils viennent. Hein. C'est pas pour dire qu'il faut oublier hein, ce qu'on est soi-même. Je me rappelle une enseignante dans une formation qui disait, voilà, j'ai essayé, très bonne volonté, avec ces adolescents qui venaient d'ailleurs, d'utiliser par exemple des auteurs d'autres pays, etc. Ça marchait pas. Je lui dis, mais est-ce que vous aimiez ces auteurs? Elle me disait, non, au fond, je n'aimais pas. Je lui dis, qu'est-ce que vous aimez, vous? Donnez-leur ce que vous aimez. Hein. Soyez vous-même authentique, consistant. C'est ça qui est extrêmement important. Et en même temps, ouvert, je dirais, essayant de comprendre hein, l'univers des autres. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de mépris hein, qui vient de la méprise. La méprise, c'est l'incompréhension. Hein. Souvent, ou alors on est à mi-chemin, hein, on essaie de comprendre mais pas trop, donc on folklorise. Non, comprendre les choses au fond. C'est-à-dire que de quelque culture que l'on vienne, que l'on soit kabyle, malgache, tamoul, chinois, etc., toutes les cultures sont des cultures qui cherchent à construire de l'humain. Hein, c'est ça qui est quand même très important. Et donc je crois que l'histoire, c'est quelque chose qui doit partir d'une compréhension très universelle des choses, hein, mais qui ouvre. Et c'est le deuxième mouvement adolescent. Hein. L'histoire, elle ouvre sur les autres. Elle ouvre sur d'autres époques, elle ouvre, et aussi parce qu'elle est rationnelle et universelle. Alors je terminerai simplement par une phrase, je dirais, simple. Hein, je ne vais pas revenir sur des questions de la repentance, etc. Mais je crois que l'histoire n'est pas la juxtaposition d'histoire singulière ou de mémoire singulière plutôt, elle est l'articulation dans une mémoire universelle qui rend justice en raison même de sa justesse. Je veux dire, on ne doit pas mentir aux enfants. Hein. Raconter ce qui est vrai, être honnête, c'est ça être un adulte consistant. On doit raconter, on ne doit pas mentir aux enfants, mais par contre, on doit leur raconter de belles histoires. De belles histoires qui libèrent leur imaginaire et qui leur ouvrent les chemins de la vie.